Aujourd'hui, je vous propose un terme d'étude concernant Israël. Israël, l'Église de Dieu. Israël d'hier. Qui est Israël d'hier et qui est Israël d'aujourd'hui? Alors, Israël est un nom qui, depuis longtemps, a changé de peuple. Alors, un petit retour dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » À l'origine, donc, Abraham, qui est le père des croyants, n'est pas juif, c'est un païen, issu d'un peuple quelconque. Et Dieu s'est adressé à lui. Et Abraham a cru en Dieu et a cru en ses promesses. Et parce que Abraham a bien voulu croire à Dieu et en ses promesses, à son égard notamment, l'Éternel lui a imputé cela à justice. C'est-à-dire qu'il a considéré que Abraham, bien que Abraham soit un pécheur, qu'il était juste de par le fait qu'il croyait en ce que était l'Éternel et en ce que disait l'Éternel. Dieu dit également pour Abraham, « Pour moi, voici, mon alliance est avec toi. » Et tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc ceci, c'est dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 5. Donc je répète, Dieu dit à Abraham, « Pour moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, c'est-à-dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. » Et un peu plus loin, il continue dans les versets en disant, « De toi sortira des rois, etc. etc. » Et donc là, il est intéressant de comprendre qu'est-ce que Dieu entend par « Abraham, père d'une multitude ». Ben, en fait, il est bien connu qu'Abraham est le premier des croyants parce que tout simplement, d'un point de vue sincère, il a cru en Dieu et que de ce fait, il est le père des futurs croyants qu'il y aura dans le monde après. Des croyants de toute nation, mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas, puisque Dieu voulait passer une alliance avec Abraham, sur qui il voulait s'appuyer, parce qu'il le considérait même comme un ami, puisqu'on verra qu'un peu plus loin dans Genèse, à un moment donné, quand Dieu veut aller châtier Sodome, il passe par le campement de Abraham, et là, il y a une discussion savoureuse entre Abraham et Dieu, et les anges qui l'accompagnent. Donc on voit que Abraham est avant tout le père des croyants spirituels, c'est-à-dire les individus qui sincèrement ont mis leur confiance en Dieu et par la suite en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant l'empreinte de Dieu sur terre. Et néanmoins, dans l'Ancien Testament, on voit également que Dieu demande à Abraham de se circoncire pour montrer un signe d'appartenance à Dieu, de par le fait qu'il croit sincèrement en Dieu. Et on va dire que c'est une marque distinctive. Et il commande à Abraham de circoncire tous les mâles de sa famille, on va dire, élargie, même ses serviteurs, et bien sûr, de circoncire également lorsqu'il aura un enfant, puisque la promesse a été faite à Abraham qu'il aurait une descendance. Un enfant, bien à lui, lui qui était déjà fort avancé en âge, ainsi que son épouse, et donc qui avait perdu tout espoir d'avoir une descendance, et Dieu lui dit, non, je te donnerai une descendance. Et Abraham, malgré les circonstances et malgré ce qu'il pouvait voir avec ses yeux, où il aurait pu penser, bah, c'est impossible, je suis trop âgé, et mon épouse est trop âgée, a accordé du crédit à la parole de Dieu, et a cru que oui, effectivement, Dieu tiendrait parole, et qu'il aurait un héritage, un fils. Donc on voit que Abraham, en fait, est le pionnier et le point de départ de la chrétienté à la fois spirituelle, donc tous les gens qui croient sincèrement en Dieu, mais également d'une lignée, on va dire, ethnique, qui est le peuple d'Israël, donc ce qui allait devenir donc les Juifs, puisque de Abraham sortira Isaac, et de Isaac sortira Jacob, ces trois étant considérés comme les pères fondateurs du peuple israélien. Donc, à l'origine, le peuple Israël, d'un point de vue ethnique et géographique, est un peuple issu d'individus qui sont croyants spirituellement, sincèrement, et qui, après, auront des signes distinctifs qui vont les distinguer de tous les peuples aux alentours et auprès de qui ils feront notamment des guerres, et également, par là même, une certaine manière d'évangélisation. Donc, ils seront à la fois ces deux-là, spirituels et ethniques. Toutefois, dans l'Ancien Testament, on voit que, inlassablement, Dieu essaye toujours de regrouper son peuple auprès de lui, parce que malheureusement, les individus vont à la dérive, ils se laissent tenter par beaucoup de choses, et on voit toujours dans l'Ancien Testament cette lutte de Dieu de vouloir toujours ramener son peuple auprès de lui, de les inciter, à les exhorter à déposer leur foi, leur croyance en lui. Et ceci est démontré notamment dans l'Exode, quand Dieu décide de sortir son peuple esclave des Égyptiens. On voit tout de suite que dès qu'ils arrivent dans le désert, qu'ils sont poursuivis par les Égyptiens, tout de suite la peur s'empare d'eux et tout de suite ils veulent retourner en Égypte, en esclavage, qui quelque part est une métaphore de ce qu'est le péché, c'est-à-dire une situation d'esclavitude, d'esclavage. Et sans arrêt, dans l'Ancien Testament, et notamment donc dans ce parcours de 40 ans dans le désert, on voit sans arrêt cette lutte entre Dieu et son peuple pour essayer de faire que eux, réellement, de leur cœur, aient confiance en Dieu et aient confiance en ses promesses. Néanmoins, des prophètes ont annoncé à l'avance au peuple, en guise à la fois d'avertissement, mais également de prophétie, que une disgrâce allait tomber sur eux. Et notamment dans Osée, chapitre 2, versets 10 et 11. Donc là, Israël, dans ce verset, est comparé à l'épouse de Dieu. Donc Dieu parle et dit « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. » Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or, c'est-à-dire les richesses spirituelles, que je lui prodiguais. Donc là, c'est un reproche que Dieu fait aux Israélites, en ce sens qu'il souhaite les diriger, les éduquer, les faire grandir spirituellement, et qu'eux, finalement, ont refusé, préfèrent suivre leur propre chemin, en faire à leur tête, quoi, si je puis dire. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Je l'enlèverai ma laine et mon lin, c'est-à-dire ma protection, qui devait couvrir sa nudité. Je planterai pour moi le rochuma, c'est-à-dire la non-féconde, dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, c'est-à-dire mon non-peuple, celui qui n'était pas mon peuple, tu es mon peuple, et il répondra « mon Dieu ». Donc là, Dieu annonce clairement aux Israélites qu'il va se détourner d'eux, qu'il va les laisser tomber, pour se choisir un autre peuple qui n'était pas au départ considéré comme son peuple, le peuple entre guillemets élu, et que ce peuple-là, justement, par contre, lui donnerait une reconnaissance spirituelle, mais également des fruits spirituels. Puisque dans notre éducation spirituelle, ce qui est cherché également, c'est à donner des fruits. Notamment, on le voit dans, je crois, ces Galates, qui sont l'amour, la bonté, la patience, la modération, etc. Donc tout ça, ce sont des fruits que nous sommes amenés à donner, on va dire, naturellement, dans le cadre de notre croissance spirituelle. Encore une fois, Dieu s'exprime au travers des prophètes par Jérémie, dans le chapitre 17, verset 4. « Toi, Judas, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. » Donc, on voit que là, comme on dit, le torchon brûle entre Dieu et son peuple. Et ceci nous est rappelé dans le Nouveau Testament, par la voix de Jésus-Christ, justement. On se souvient très bien dans les évangiles que Jésus-Christ a souvent été en but et en discussion très animée avec les pharisiens et avec toute la caste religieuse juive qui ne voulait pas le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Là, Jésus-Christ a prononcé des sentences à l'égard du peuple israélite, notamment dans Matthieu, chapitre 21, verset 43. Il leur dit aux pharisiens et autres, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Dans Matthieu, chapitre 8, versets 11 à 12, Jésus-Christ dit, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire du monde entier, et seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Israélites, seront jetés dans les ténèbres du dehors. » En fait, tous ceux qui ne croient pas sincèrement en la personne de Jésus-Christ et de son œuvre et de ce qu'il est. Et c'est la même chose pour également les gens non israélites, pour les païens. Donc c'est par un geste aussi fort et symbolique que Jésus-Christ fait comprendre à ses disciples que l'ancien Israël est condamné et qu'il ne portera plus de fruits. Et que justement, Jésus-Christ fera venir dans son Église des Israélites qui seront bien sûr sincèrement croyants, et dans la Bible on en voit, et bien sûr des païens qui se convertiront et qui feront partie de l'Église universelle. Alors parmi les Israélites qui sont sincèrement croyants, on a un exemple dans Luc, dans chapitre 2, quand Marie et Joseph vont présenter Jésus-Christ au temple, il y a là Siméon qui est sur le parvis du temple, et qui reconnaît là que c'est le sauveur du peuple israélien, et qui le prend dans ses bras, et qui est heureux comme tout, et le présente à Dieu en disant « Merci Seigneur de m'avoir permis de voir le salut de notre peuple, je peux partir maintenant en paix. » C'était quelqu'un qui était considéré comme pieux, extrêmement croyant, et donc on peut assurer que cet homme-là, qui est israélite, fait partie également de l'Église de Dieu. Mais ce n'est plus, l'Église de Dieu n'est plus constituée par l'Israël, c'est-à-dire le peuple ethnique initial. Et on a ce verset célèbre qui, on va dire, scelle la condamnation de Jésus-Christ vis-à-vis du peuple juif, dans Matthieu chapitre 21, versets 18 à 19. « Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier, donc on sait que le figuier c'est un des symboles d'Israël, sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Donc, on voit maintenant que dès lors, l'Israël n'est plus seulement constitué des fils d'Abraham et selon le sang, et n'est plus constitué par la descendance d'Abraham et de ses fils, mais que maintenant Israël est constitué des fils selon la foi. C'est une descendance spirituelle. Ce qui finalement avait toujours été dès le départ, puisque Abraham n'était pas juif au départ. Il est devenu. Il était un croyant spirituel. Donc, Paul nous confirme ceci dans Romains, chapitre 9, au verset 6 et 8. Tous ceux qui descendent d'Israël, donc qui sont israélites, ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ses descendants par le sang, ils ne sont pas tous ses enfants. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse, c'est-à-dire de la foi en la promesse d'un rédempteur et de la résurrection, qui sont regardés comme la postérité. Et Paul nous reconfirme ceci dans Galates chapitre 3, versets 6 et 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire qu'il était justifié, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, et qui bien sûr ont porté fruit, sont les fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire les non-israélites, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, et pas seulement l'ancien Israël, seront bénies en toi. Ainsi, tous ceux qui croient et agissent en conséquence, bien qu'ils ne soient pas israélites, sont bénis avec Abraham, le croyant. » Donc au départ, avec Abraham, il y avait des signes distinctifs physiques, c'est-à-dire la circoncision. On verra que après, dans le Nouveau Testament, il n'est plus question pour un croyant de se circoncire, parce que la seule circoncision qui vaille, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire le fait que l'individu, la personne, s'offre de plein gré à Jésus-Christ et le considère comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et donc met sa vie sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc ces personnes-là, hommes ou femmes ou enfants, d'une certaine manière, de façon, comment dirais-je, non physique, circoncisent leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ils donnent un gage d'abandon et de se mettre quelque part en propriété de Jésus-Christ. Et donc ceci nous est confirmé dans Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, c'est-à-dire le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est-à-dire sous-entendu la vraie circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc on voit très bien, ceci nous fait écho notamment au problème que les juifs voulaient sans cesse respecter la loi et se targuer qu'ils le faisaient. Mais en fait, la loi était là pour montrer que ce n'était pas possible, que nous autres êtres humains, nous avons des limites, et notamment par le péché, et que la seule manière qui vaille, c'est de déposer sa confiance en Dieu et de lui obéir et de le laisser agir en nous. Et enfin, donc, Paul nous dit dans chapitre 9, versets 24 à 26, « Ainsi, Dieu nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Alors ensuite, Pierre, lui aussi, nous redit cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Ancien Testament qui le dit, il n'y a pas que les prophètes, il n'y a pas que Jésus-Christ qui l'a dit, il n'y a pas que Paul, il y a également Pierre, qui nous dit dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, versets 9 à 10, « Vous, c'est-à-dire les vrais disciples, ceux qui sont crédules et qui croient en Dieu et en Jésus-Christ, au contraire des incrédules, vous êtes une race élue, une race choisie, une nation sainte, un peuple acquis, racheté par la rançon de la vie de Christ. » Vous qui autrefois, lorsque Israël avait cette mission d'évangéliser, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc, il est clair que certaines branches naturelles de l'olivier ont été coupées. Donc l'olivier étant un symbole d'Israël. Et sur cet olivier ont été greffées des branches d'olivier sauvages, donc les païens, qui sont appelés justement à croître et à recevoir la sève de la racine pour donner des fruits spirituels. Donc l'Église d'aujourd'hui, l'Église universelle du Christ, contient uniquement des croyances spirituelles qui, pour certains, peuvent avoir une origine juive ethnique, c'est-à-dire des juifs qui ne se limitent pas à croire seulement la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, mais qui en fait reconnaît Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et puis bien sûr, la multitude des autres, qui sont appelés dans la Bible païens ou gentils, qui pour chacun d'entre eux, pour certains d'entre eux avaient peut-être des idoles, qui décident également de se repentir et de se convertir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc cette Église-là, et cette Église d'aujourd'hui, et elle est appelée bien sûr à se développer. C'est justement l'une des recommandations de Christ, à savoir, dans le cadre de l'évangélisation, essayer de répandre sa parole pour toucher un maximum de personnes qui puissent à son tour se repentir, à se convertir. Et des promesses sont faites à cette Église, notamment celle de l'enlèvement. Dans 1 Thessalonique chapitre 2, versets 16 et 17, un verset que vous connaissez. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, il s'agit de la prophétie sur l'enlèvement de l'Église, avant les tribulations qui sont décrites dans l'Apocalypse. Et Pierre nous parle également de cela, toujours dans le deuxième épître, au chapitre 3, versets 9 et 13, quand il dit « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns le croient, qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulons point qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Donc là, c'est clairement montré que, pour l'instant, le Seigneur attend patiemment que l'Église fasse son œuvre d'évangélisation pour permettre de ramener le plus grand nombre de personnes dans cette Église universelle, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on rencontre une multitude de missionnaires. Donc là, dernièrement, donc, nous avons eu Clémence qui est venue nous présenter sa mission donc, en Turquie. Mais il y a également des gens qui sont touchés pour aller évangéliser des juifs en Israël ou même en France pour justement leur partager la parole et leur faire comprendre l'importance pour eux de croire en Jésus-Christ, de croire de qui est Jésus-Christ et quel est l'objet de son œuvre rédemptrice sur la croix. Il y a des gens qui sont touchés par ça et qui donc mènent des missions d'évangélisation auprès de différents groupes. Vous avez des missionnaires qui vont être touchés pour aller évangéliser des personnes qui vivent sur des îles lointaines, etc., etc. Donc on voit bien que le propos de Dieu est de toucher tous les êtres humains de la terre entière. Et donc, au travers des missions, de pouvoir évangéliser pour ramener dans l'Église universelle tous ceux qui doivent y trouver leur place. Et je viens de vous parler de l'enlèvement, mais également Pierre nous parle que nous sommes appelés à vivre sur une nouvelle terre. Dans le chapitre 3 du deuxième épître de Pierre, au verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. » Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété ? Attendant et attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel des cieux enflammés seront dissous et les éléments embraserés se fondront ? Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Bon, c'est une promesse. Non seulement nous serons enlevés avec le Seigneur, et ceux qui sont morts avant seront ressuscités pour être enlevés, mais après, le Seigneur a le but de redonner une nouvelle terre, puisque la terre actuelle est souillée par le péché de l'espèce humaine. Et je terminerai par cette phrase de Jésus-Christ dans Jean, dans cette fameuse soirée, lorsqu'il a pris son souper avec ses disciples. Chapitre 15 de l'Évangile de Jean, verset 10 à 14. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés dans l'Église universelle de Dieu, c'est être les amis de Jésus-Christ, de par le fait qu'il nous aime, nous l'aimons, et dans le cadre de cet amour, eh bien, nous cherchons à l'écouter et à obéir à sa parole. Je vous souhaite un bon dimanche.